Allez, en Israël, on va revenir sur le conflit entre Israël et les Houthis, à l'heure où un nouveau missile a envoyé des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'Israéliens dans les abris. C'était hier soir. Et aussi, on va revenir sur le moment où l'État hébreu a frappé une nouvelle fois le port d'Hodeïda au Yémen. Et tout cela en compagnie de Raphaël Jérusalmi, ancien officier des renseignements militaires de Tsahal, qui est à votre micro, ma chère Lise.
Raphaël Jérusalmi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, l'armée de l'air israélienne a encore frappé hier des infrastructures des Houthis dans le port de Hodeïda au Yémen. C'est, je sais pas, la troisième ou la quatrième fois que l'armée de l'air israélienne fait des frappes sur ce port yéménite. Est-ce que ça veut dire que le trafic d'armes avec l'Iran continue à Hodeïda, Raphaël?
Absolument. On a d'ailleurs vu certains bateaux avec des pavillons différents, même chinois, apporter de l'armement aux Houthis du Yémen et des véhicules lourds pour les missiles. Et donc, les frappes qui ont été perpétrées sont sur trois quais importants du port de Hodeïda qui, normalement, devraient, puisqu'ils ont été détruits, devraient neutraliser ce port pendant plusieurs semaines, le temps des réparations. C'est un port qui est utilisé donc pour ses approvisionnements en armes et en combustible lourd pour missiles, qui est utilisé aussi comme base militaire, base navale des Houthis pour perpétrer leurs actions de pirates en mer Rouge. Et c'est surtout aussi un nerf économique du régime des Houthis, par lequel ils commercent donc, et même font du commerce de pétrole. Donc c'est un coût assez important qui a été frappé à leur égard.
Alors, depuis la précédente frappe, le groupe terroriste avait lancé deux missiles balistiques et deux drones contre Israël, qui ont été, heureusement, tous été interceptés, mais ils en ont encore beaucoup, hein, Raphaël Jérusalmi.
Oui, on ne sait pas évidemment combien, mais ils en ont beaucoup. Probablement des centaines, ils ont été approvisionnés pendant des années par l'Iran et probablement aussi financièrement par le Qatar. N'oublions pas qu'ils ont réussi à décourager l'Arabie Saoudite de s'en prendre à eux. Il y avait donc ils sont quand même une puissance militaire avec laquelle il faut compter. Cela va prendre du temps. Les Houthis du Yémen, c'est un gros morceau que les Américains auraient dû frapper avec nous. Les Américains auraient dû continuer l'offensive qu'ils avaient entamée. Il devient absolument absurde et ridicule que ce soit de nouveau Israël, à plus de 2000 kilomètres de là, qui soit s'occuper du problème des Houthis du Yémen. On se demande si un jour on va pas demander aux Israéliens d'aller s'occuper du Pakistan, de l'Afghanistan et je ne sais quoi encore. C'est quand même le boulot des Américains et de la communauté internationale de s'occuper du problème des Houthis du Yémen qui menace le commerce maritime mondial.
Surtout que le slogan des Houthis, c'est tout de même « mort à l'Amérique, mort à Israël, malédiction sur les Juifs ».
En plus, voilà, vous avez très bien dit, c'est exactement leur programme.
Alors, en tout cas, depuis le 18 mars que l'armée israélienne a repris son offensive dans la bande de Gaza, les Houthis ont quand même balancé 83 missiles balistiques et 36 drones sur Israël. Heureusement, beaucoup qui ont raté leur cible. On avait eu peur tout de même, Raphaël, quand il y a eu ce fameux missile sur Tel Aviv qui avait fait plusieurs civils blessés. Est-ce que les Houthis ont des missiles plus sophistiqués, j'ai envie de dire, qui pourraient faire plus de dégâts que les missiles habituels qu'ils ont envoyés comme hier?
Alors, eux prétendent que oui, à savoir si véritablement ils en ont et s'ils ont l'entraînement et la capacité technologique de s'en servir. Toujours est-il qu'à chaque tir, ils apprennent, ils étudient la défense anti-aérienne israélienne. Cela leur permet effectivement d'essayer de détourner, de passer par d'autres itinéraires pour déjouer cette défense anti-aérienne. Et évidemment, le risque est toujours là qu'un missile passe au travers.
Alors, je voulais qu'on parle aussi aujourd'hui, Raphaël, de ce projet d'accord sécuritaire avec la Syrie qui revenait sur le devant de la scène Israël aurait proposé à la Syrie cet accord et il va être de nouveau discuté aujourd'hui même à Londres, notamment par le ministre des Affaires étrangères syrien, mais aussi par Ron Dermer, le ministre des Affaires stratégiques, et par l'envoyé américain en Syrie, Tom Barrack. Est-ce qu'on a finalement bon espoir que ces pourparlers aboutissent bientôt pour un accord sécuritaire avec la Syrie?
Oui, bon espoir qu'ils aboutissent, mais pas bientôt. Alors, d'un côté, il est intéressant de voir qu'il y a des négociations, en fin de compte, directes, secrètes, et certaines sont même rendues publiques, entre Israël et la Syrie. Il y a, du côté, en fait, du côté syrien, un problème, c'est, d'un côté, l'influence de Washington, la nécessité pour le nouveau régime syrien d'être en bonne avec les Américains, pour survivre et pour être accepté par la communauté internationale, mais d'un autre côté, l'intérêt qu'ils ont à subir l'influence turque, être manœuvré par les Turcs, qui leur promettent un soutien beaucoup plus concret, beaucoup plus immédiat qu'une simple sympathie de la communauté internationale. Et donc, ils sont un petit peu pris entre les deux. Ils ne font pas plus confiance aux Israéliens que les Israéliens ne leur font confiance. Des deux côtés, on exige des garanties, et puis on a au milieu le problème des Druzes. N'oublions pas non plus quand même que lorsqu'on parle du régime de Damas, il ne contrôle pas toute la Syrie. Il contrôle peut-être un tiers, si on est optimiste, de la Syrie. Les autres deux tiers de la Syrie ne sont pas véritablement aux mains et au contrôle du régime qui siège à Damas, à commencer évidemment par les Kurdes, qui sont quasiment autonomes, à commencer par d'autres villes qui sont pas du même camp, du même bord que M. Charin, et puis même une partie de la Syrie vers l'ouest qui est encore aux mains des Alaouites. Donc c'est pas toute la Syrie qui est concernée, et donc elle peut pas s'engager pour tout le territoire syrien. Il y a aussi évidemment le plus important, le problème des Druzes au sud de la Syrie, et là, c'est là qu'il y a les négociations les plus intenses. D'un côté, les Israéliens renforcent les Druzes, ils payent maintenant des salaires à peu près 3000 mercenaires druzes, des milices druzes, pour les renforcer dans la région de la Saouda, alors que le gouvernement syrien veut les désarmer. Donc là, il y a un conflit d'intérêts. Évidemment, il y a la présence israélienne militaire physique sur le Golan syrien, au sud du pays, dont le régime de Damas voudrait évidemment voir les Israéliens dégagés. Les Israéliens ne bougeront pas tant qu'ils n'auront pas les garanties nécessaires. Donc il y a encore énormément à discuter pour qu'il y ait une sorte de semi-confiance règne entre les deux, et surtout qu'il y ait des garanties internationales, à mon avis, de part et d'autre, que si jamais il y a des infractions à cet accord, ce qui peut arriver assez rapidement, auquel cas, Tsahal, par exemple, reviendrait tout de suite et en force en Syrie, même s'il acceptait de quitter le territoire syrien en fonction d'un accord.
Merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi, ancien officier des renseignements militaires de Tsahal, d'avoir été avec nous ce matin pour ce à la une en Israël. Je rappelle que vous êtes aussi écrivain et que vos tribunes de guerre viennent de sortir aux éditions David Reinhardt. Bonne journée, à très vite.
Bonne journée.